Vous êtes bien sur France Culture. C'est l'été, tout de suite, l'heure du documentaire Irène Omelianenko.
Ça y est, tu enregistres là ?
Bonjour, c'est l'heure du documentaire et nous poursuivons notre série d'enquêtes réalisées durant ces 10 dernières années pour Sur les Docks. Nous avions diffusé en juin 2015 un documentaire consacré à la lutte des Fralibes qui fut une bataille judiciaire rythmée de manifestations pour refuser la fermeture d'une usine rentable. Nicolas Jox l'a décrit comme une usine historique fabriquant le fameux thé éléphant créé à Marseille en 1896. Symbole de la lutte, portée dans toute manifestation, la sculpture en carton de l'éléphant est aujourd'hui précieusement conservée au fond d'un atelier. Tout à côté, on trouve des dizaines de matelas empilés. Ces matelas, se souvient Gérard Cazorla, c'était quand on a occupé l'usine pour empêcher notre outil de travail de partir. On a quasiment surveillé l'usine pendant 3 ans. On se relayait et on dormait sur place pour éviter que notre outil de travail s'en aille. Aujourd'hui, cette lutte semble exemplaire. Les Scopti produisent du thé et des infusions sous la marque 1336.
Voilà, voilà l'usine de production. Ici, tout ce qui est conditionnement de thé, avec en amont, on a les passerelles au-dessus, avec tout ce qui est trémie pour faire descendre le produit sur toutes les machines de conditionnement, que ce soit des C2000, des Tommy, des Constanta, des Molins.
Le combat des Fralibes, la démocratie au cœur de l'entreprise. Un documentaire de Nicolas Jox et Diffie Mariani.
L'étage, on appelle ça la passerelle. La passerelle, c'est l'acheminement des gros big bags de thé. Donc on a des big bags de 500 kilos qui sont amenés par un ascenseur jusqu'à les acheminer au-dessus des machines. Et de là, ils l'ouvrent pour faire descendre par gravité le thé ou les infusions sur la machine. On a quand même 200 mètres de long sur 60-70 mètres de large. Hein, quand même, ça fait un bel espace de production. Voilà. Là, on est vraiment au cœur de l'usine, hein, au cœur de la production.
À 20 km de Marseille, la commune de Gémenos, au pied du massif de la Sainte-Baume. En lisière de ce village provençal, l'usine Fralibes. C'est ici que pendant 1336 jours, 182 salariés se sont battus contre la décision de la multinationale Unilever de fermer leur usine. Le site produisait des infusions et des thés aromatisés dans le fameux thé éléphant. Unilever, une multinationale de l'agroalimentaire comptant 170 000 salariés et dégageant 5 milliards de bénéfices. En septembre 2010, la direction décide de délocaliser l'usine en Pologne. Après 3 ans de lutte, les femmes et les hommes de Fralibes réussissent à faire céder Unilever. Ils obtiennent 20 millions d'euros de la multinationale pour relancer l'activité et créer une coopérative, Scopti. Aujourd'hui, la production est relancée et les salariés réinventent une manière de vivre autrement l'entreprise.
Le but, il est là, on veut être autonome, on veut dépendre de personne. C'est ce qu'on veut arriver à ça et on s'est battu pour ça. Et en fait, on s'est pris en main. Hein. On s'est pris en main et on s'est dit, pourquoi pas nous ? Pourquoi ? Pourquoi ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ces gens au-dessus de nous qui chapeautent tout ça, qui prennent les décisions pour nous ? Pourquoi nous, on ne serait pas capables ? On veut créer quelque chose, on veut repartir sur des bases saines où tout le monde, une voix, une personne, voilà, chacun est responsable. Il n'y a pas de hiérarchie à la base, hein. Nous on est tous responsables, c'est ce qu'on veut. On veut arriver à ça, mais ça prend du temps à mettre en place. Valider tout ça dans la tête, c'est dur, hein. Mais c'est sur quoi on veut tendre. Il est là le truc.
Vous êtes en train de vérifier que ça se passe bien, c'est ça ?
Je contrôle la qualité du produit, oui, qu'on est en train de produire. Ici, ça va à peu près bien. Hein. Ça va, ben là on la redémarre, donc il y a pas mal de vérifications à faire, un peu d'entretien, mais dans l'ensemble, elle redémarre à peu près bien. Là c'est l'empilage, là c'est ce qu'on appelle l'empilage sachet. Donc ça compte les 20 sachets là dans l'empilage, ça les maintient comme ça en pile, et après ça les met dans la boîte. Là vous voyez, ça tourne, donc c'est la preuve que ça fonctionne. C'est notre outil de travail, on s'est battu pour en arriver là justement, donc maintenant c'est l'aboutissement, c'est là quoi, c'est arriver à redémarrer, à produire et à en vivre bien entendu.
Ah ben, c'est sûr qu'on a hâte, hein. Je me langue, hein. Franchement, voir les machines tourner régulièrement comme ça, avec les équipes autour, avec les opérateurs, avec les techniciens, avec toute l'ossature autour, logistique, comptable, c'est un truc de fou. On a toujours voulu arriver à ça, et maintenant on le touche du doigt presque. Hein. On n'est pas loin. On n'est pas loin. J'en ai les frissons.
Aujourd'hui, la coopérative est une réalité. Mais pour en arriver là, le chemin a été long, parfois douloureux. Le 28 septembre 2010, les représentants syndicaux s'adressent aux salariés de Fralib.
La direction, ce matin, nous a présenté le projet de fermeture de l'usine de Gemenos, prétextant la compétitivité du site, bien évidemment, les coûts, le marché qui baisse dans l'infusion en thé, donc le discours habituel pour mettre en place un projet qui va affecter 182 familles.
Gérard Cazorla, secrétaire CGT au comité d'entreprise.
Cette usine, la décision de fermer, elle était ni justifiée économiquement, ni socialement. Donc il n'y avait pas de raison de fermer une usine comme ça. Cette usine, elle a toujours été profitable, elle a toujours été rentable. Moi, je fais partie du CE depuis des dizaines d'années, au moins deux décennies. J'ai toujours vu des bilans avec d'énormes bénéfices et des remontées au groupe de dividendes importants de la part de Fralib. Donc, on pensait que c'était possible qu'ils nous annoncent une fermeture, mais on ne l'imaginait pas. Mais c'est clair que c'est une annonce comme ça, c'est un coup que vous recevez derrière la tête. Et quand vous sortez de cette salle, là où on est, pour aller devant les salariés, pour annoncer la décision du groupe, c'est de dire aux 180 salariés qui sont devant vous que Unilever veut fermer cette usine, ben c'est compliqué, c'est difficile à dire.
À l'intérieur, là, il y a un outil de travail. Il n'est pas à eux, il est à nous. Il n'est pas à eux, il est à nous. Il n'y a pas un boulon qui va partir d'ici. Pas un boulon. Qu'on s'entende bien. Ils veulent faire partir les productions. Nous, les productions, on sait qu'on est capable de les faire. Les productions, les machines-outils qu'il y a là, ils nous appartiennent à nous. Ils leur appartiennent pas à eux, ils nous appartiennent à nous. D'accord ? Que ça en soit bien clair par rapport à ça.
Ben, je me souviens du matin, je suis arrivée et il y avait du monde.
Rémi Dri, ouvrière chez Fralib.
Il y avait énormément de monde, il y avait à peu près toutes les équipes. Tout le monde était là. C'était. Puis il y avait une. C'est étrange, il y avait une tension palpable. Vous attendez quelque chose qui va être grave, mais vous ne savez pas quoi, parce que les gens pensaient que c'était un plan social. Bah, ouais, c'était. Pour moi, ça a été. Ouais, c'était dur. Puis on ne s'y attend pas, quoi. Aujourd'hui, c'est fini. En plus, le pire du pire, moi, de ce que je me souviens, c'est quand on vous dit pour raison économique. Alors là. Ça vous. Vous comprenez pas. Parce que moi, ce que je me suis dit ce jour-là, je me suis dit, mais purée, j'aimerais avoir le problème d'Unilever. Le problème économique d'Unilever, si un jour je dois côtoyer ces problèmes, j'aimerais l'avoir. C'est quelque chose qui vous tombe du ciel, mais c'est trop lourd pour les épaules, quoi. Mais on se dit, qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? On se dit non. La plupart disent non, on va pas se laisser faire, purée. Économiquement, ils sont archi-milliardaires et on nous dit on va vous mettre à la rue parce que vous ne nous amenez pas assez d'argent. Donc là, on se dit non. Et je pense que personnellement, chacun d'entre nous s'est impliqué dans la lutte. La plupart des salariés qui ont été impliqués dans la lutte, ben, ils se sont dit c'est pour qu'ils ne s'arrêteraient pas à se battre.
Unilever avait préparé la fermeture depuis quelques années quand même. C'est pas, la fermeture n'est pas arrivée le 28 septembre. La fermeture est arrivée bien avant, où ils ont pris la décision dans les hautes instances de fermer cette usine. D'ailleurs, pour ça, ils ont mis en place un nouveau directeur qui est arrivé en 2007. Quand il est arrivé, la première des choses qu'il a fait, c'est de s'attaquer à l'organisation syndicale en voulant licencier les délégués syndicaux. Ensuite, on met en place des projets soi-disant pour améliorer la performance de l'usine, mais qu'il envoie dans le mur, quoi, quasiment. Hein. Donc on voyait bien que tout ce qu'il mettait en œuvre était pas pour améliorer les choses, mais pour les dégrader, pour pouvoir après avoir les arguments de dire on ne peut pas y arriver, on a essayé, mais voilà, il faut la fermer.
Nous, on n'exonère pas les responsabilités d'Unilever sur la décision de fermer cette usine qui est tout à fait injustifiée et donc que les casseurs doivent payer. Et Unilever doit payer et assumer ses responsabilités.
On veut leur arracher ce qu'ils nous doivent. C'est cette histoire. Donc c'est une entreprise industrielle. C'est une activité industrielle. On veut que ça reste une entreprise industrielle et une activité industrielle, pas... Une petite entreprise artisanale. C'est des hommes et des femmes, c'est pas des pions qu'on est ici. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler. On veut pas de choses, on veut travailler.
Bon, vous arrivez là, il y a une lutte qui s'enclenche et vous êtes jeune dans la lutte parce que vous avez jamais connu de lutte. Mais ces gens-là, vous... Oh, Olivier et Gérard... Ils ont un vécu de lutte précédente par leur passé et ils vous expliquent comment ça va se dérouler. Donc, et ils y croient tellement qu'il y a quelque chose de possible, que ce n'est pas inéluctable. Ils vous le transmettent, ça. Vous le voyez dans leur regard, dans leur, comment ils sont, dans leur action. Donc, c'est des gens qui sont à 100% pour la conquête d'acquis de salariés. Donc, ils vous le transmettent de par force, parce que vous les voyez, quand ils vous parlent, ils sont animés par ça. C'est comme si c'était un second souffle pour eux. C'est leur vie de se battre et de ne pas se laisser faire. Donc, quand vous êtes réceptif, vous l'intégrez et vous rentrez dans la lutte.
La lutte de Fralib a été une longue lutte. Hein. On a occupé l'usine à deux reprises. Donc on a passé des mois, je dirais, à l'intérieur, hein, jour et nuit. Donc il fallait bien qu'on se repose. Et on a pris ces matelas en mousse pour pouvoir se faire un endroit dans l'usine ou dans les bureaux pour pouvoir se reposer un petit peu à tour de rôle.
Pourquoi occuper l'usine ?
Et occuper l'usine, c'était indispensable parce que si on enlevait l'outil industriel, ça nous empêchait de mettre en place notre projet, y compris même si on gagne au tribunal, on aurait gagné l'annulation des plans de sauvegarde de l'emploi et des licenciements, mais on n'aurait plus d'outils pour pouvoir porter notre projet. Donc c'était essentiel de garder l'outil industriel à l'intérieur.
Et la direction a tenté de faire un déménagement de l'outil, des machines ?
Ben, je crois qu'ils avaient l'idée, mais ils n'ont pas pu le mettre en application parce qu'on a été jour et nuit quasiment en permanence ici avec une surveillance. Depuis l'annonce de la fermeture, le 28 septembre 2010, on n'a pas arrêté par tour de rôle, même quand on n'était pas en conflit ouvert, d'avoir des personnes à l'intérieur pour pouvoir surveiller les allées et venues et le risque de déménagement de l'outil industriel. Parce qu'on savait qu'à tout moment, ils pouvaient le faire. L'usine était à nous, et voilà, la direction ne rentrait pas. Donc c'est malheureux, mais il a fallu se mettre dans l'illégalité, parce que c'est illégal d'occuper une usine. On empêche, soi-disant, bon, la direction de rentrer. Ça, on a été condamné, mais on savait d'avance qu'on serait condamné par le tribunal, mais on a quand même fait ça, parce que, si, je le répète, si on n'avait pas fait ça, Aujourd'hui, on aurait gagné au tribunal à 3 reprises, mais on n'aurait plus d'outils de travail pour travailler. Donc nous, l'essentiel, c'était de préserver l'outil de travail sur place pour mettre en place notre projet de SCOP et sauver nos emplois.
Qu'est-ce que j'ai fait là ? Dans mon cas.
Allô ?
Oui, Amine.
Oui, salut.
Ça va ?
Ça va, et toi ?
Ça va, je suis avec. On est sur le haut-parleur là. Donc, il y a Gérard et Freddy.
Salut.
Bonjour, ça va ? Salut, Freddy.
Bon. Dis-moi, on a reçu ce matin la région.
Et vous avez aussi l'avocat qui nous a défendu, Amine Guenim. C'est une personne qui vous transmet cette envie de ne pas vous laisser faire. Qu'on a un droit français et un droit aussi du travail qui... Lorsque vous êtes attaqué par un licenciement, il faut comprendre pourquoi vous êtes licencié déjà. Comprendre la raison. Et si cette raison pour vous est valable ou pas, si vous comprenez qu'elle n'est pas valable pour vous, vous rentrez dans la lutte syndicale et juridique. Et cet avocat, la particularité, c'est que pendant 4 ans, il nous a soutenus et il nous a aidés. Il a été dans notre lutte, lui aussi. C'est un homme admirable. Je veux dire, il a passé plus de temps que nous à travailler sur notre dossier que je pense que nous qui avons lutté.
Grève, occupation de l'usine, manifestation, pression sur les pouvoirs publics, le combat des Fralib est aussi une véritable guérilla judiciaire contre la multinationale Unilever. Avec l'aide de leur avocat, les salariés multiplient les procédures pour contester la fermeture de cette usine rentable. En 3 ans, la justice annule 3 plans de sauvegarde de l'emploi pour non-respect du droit du travail, acculant la direction d'Unilever à passer un accord avec les salariés.
Écoutez, la particularité de cette bataille...
Amine Guenim, avocat des salariés de Fralib.
C'est que la lutte syndicale a pris toute sa place et elle a été déterminante. Et l'instrument, si vous voulez, judiciaire ou la partie juridique n'a été qu'un moyen pour mener et pour accompagner cette bataille. Quand vous travaillez sur des conclusions, quand vous devez contester un plan de sauvegarde de l'emploi, quand vous devez faire une critique sur les moyens mis en œuvre par le groupe Unilever, quand vous devez faire une critique sur les postes de reclassement, sans un apport décisif des représentants des salariés, vous ne pouvez pas faire le boulot tout seul. C'est impossible. Au départ, ils ont refusé la fatalité de la fermeture et ils se sont dit « nous avons un projet alternatif à cette fermeture » et tout leur combat a tourné autour de cela.
Ici, on est dans la partie conditionnement. C'est là où on va mettre le thé en sachet et faire les boîtes de thé.
Yves Baroni, ouvrier aromatiseur.
Et au conditionnement, donc, on est en capacité de faire des boîtes de 10 sachets, des boîtes de 20 sachets, des boîtes de 25 sachets, des boîtes de 40 sachets, 60 sachets, 50 sachets, 100 sachets. Des sachets ronds, des sachets double chambre et des sachets mousseline. Et aussi des sachets fraîcheur. Donc on a vraiment une gamme qui est très étendue. Et on avait une gamme très étendue de produits en fait. Si on revient dans les années 98, ici il y avait un atelier, ce qu'on appelait un atelier de coupe. C'est-à-dire on recevait les branches de tilleul, etc. Et c'est nous qu'on coupait les branches à la granulométrie qu'on désirait suivant nos produits. Et en 98, ils ont arrêté cette ligne de coupe et ils en ont fait une zone de stockage. Il y avait un savoir-faire et l'aromatisation c'était de la cuisine. C'est-à-dire qu'on avait des recettes, hein, on avait une ligne qui était pilotée automatiquement, mais la main de l'homme était absolument nécessaire. On avait plusieurs contrôles du produit qu'on faisait, contrôle tactile, contrôle visuel, contrôle olfactif. Et suivant l'hydrométrie de l'air, suivant la météo, suivant la qualité des plantes, il fallait ajuster. Donc c'était de la cuisine et on créait le thé aromatisé, donc on avait plusieurs sortes de thé, de Chine, de Ceylan, du Darjeeling, etc. Mais on faisait aussi des infusions, donc là on avait de l'églantier, de l'hibiscus, de la camomille, du tilleul, du réglisse, de la verveine. Et dans nos racks, c'était, ça ressemblait un peu à un souk, parce qu'il y avait toutes sortes de couleurs, puisque les produits venaient du monde entier, toutes sortes de contenants, il y avait des sacs, des fûts, des cartons, et puis voilà, il y avait des odeurs terribles, parce qu'on avait des épices, de la cannelle, du poivre, on avait des fleurs, des pétales de rose, etc., etc., on avait des zestes d'agrumes. C'est une île verte, donc par souci de coût et de profit, donc on a remplacé l'aromatisation naturelle par de l'aromatisation avec des arômes synthétiques, ce qui fait que ce n'est plus de la cuisine, ce n'est plus un savoir-faire, c'est tout simplement un mélange. Tu prends une bétonnière, tu prends du thé, des billes synthétiques et tu mélanges le tout. L'industrie agroalimentaire est synonyme de malbouffe, alors que non. Elle est synonyme de malbouffe parce qu'il y a une volonté de générer énormément de profits. Alors que c'est pour ça que nous, on est une industrie, hein, notre site, mais on m'a prouvé que non, nous on va faire des bons produits. Alors on fera moins de marge. L'idée c'est de relancer l'aromatisation, donc avec des produits naturels, et privilégier les circuits courts, puisque là dans notre production militante, on fait venir le tilleul de Bully-Baroni, c'est là en Drôme Provençal, c'est à 1h30 d'ici. Et donc on verra lancer, par exemple pour le tilleul, cette production-là, mais il y en a aussi d'autres, il y a la menthe aussi, et, etc., etc. Et aussi relancer la production bio, parce qu'on veut travailler sur le bio.
Oui.
Pour les coopérateurs, les défis à relever sont nombreux. Après la remise en état des machines, il faut résoudre la question de l'approvisionnement en matières premières, réaliser des études de marché, rechercher des clients et des circuits de distribution. Scopti aura sa propre marque de thé et d'infusion aromatique. Dans l'usine, on s'active pour finaliser une gamme d'une quinzaine de produits.
Allez, ça a sonné.
Là, c'est pour vérifier la couleur de la feuille une fois infusée. En tant que dégustateur de thé, tu dois valider le goût, l'odeur, la feuille avant infusion et la feuille après infusion. Par contre, pendant la dégustation, tu ne nous entendras pas parler parce que c'est le silence complet. Il faut absolument être concentré sur ce qu'on fait.
En fait, là, on a mis les thés nature et après, on attaque la série de thés parfumés.
Aujourd'hui, on est dans la sélection des matières premières pour la marque qui va être sur la SCOP. Donc, on sélectionne autant les infusions que les thés. Aujourd'hui, c'est la phase thé. Pour la partie infusion, c'est déjà validé. Mais pour la partie thé, c'est le plein travail aujourd'hui. L'objectif de la SCOP, c'est d'avoir des produits de qualité tout en respectant le consommateur au niveau budgétaire. Pour les infusions, c'est d'avoir au maximum des productions qui soient locales. Locales sur tout le territoire français. Hein. C'est de pouvoir travailler avec des producteurs, mais que chacun y trouve son compte. C'est-à-dire qu'il n'y en ait pas un qui se... excusez-moi le terme, qui se gaffe plus que l'autre. Le producteur a le droit de vivre, les scoptistes ont le droit de vivre, et le consommateur aussi. Donc on espère qu'en travaillant tous ensemble, on arrive justement à contribuer à ce que la filière des plantes aromatiques revienne en France. Donc ce qu'il faut refaire, on les a fait à 2 grammes, on va les faire à 2,25.
2,25 grammes, ouais. Les trois.
Les
ou
trois.
Tu non. Carrément on élimine le...
Non, on va faire les trois quand même à 2,25. D'accord.
D'accord.
Ok, ça marche. Après, voilà. Alors, je m'appelle Nadine Fiquet, j'ai 59 ans, j'ai commencé à travailler à Fralib, je n'avais pas 18 ans. Je suis rentrée le 4 janvier 1974 à Fralib au Havre. J'ai commencé comme opératrice sur machine et j'ai rejoint la qualité assez vite quand même. J'ai travaillé au niveau de la qualité à partir de 1978. Comme contrôleur qualité, contrôleur échantillonneur, technicien de qualité, responsable laboratoire et pour terminer en responsable assurance qualité et laboratoire. Donc je suis partie en 2007 au premier plan social d'ailleurs. Et quand en 2010 ils sont tombés en grève, bien naturellement je suis venue les soutenir. Et puis je suis restée. Et puis quand ils ont dit on lance la SCOB, j'ai dit je vous aide, tout simplement. Les gens qui sont là n'ont pas encore cette expérience, mais au fur et à mesure, ils le découvrent, ils apprennent avec moi comment on travaille là-dessus.
Bon, heureusement qu'elle est là aussi, hein, parce que c'est tout nouveau tout ça. Il faut s'informer de tout, c'est pas évident. Hein.
Aujourd'hui, vous travaillez sans être salarié ?
Voilà. Aujourd'hui, je travaille sans être salarié, tout à fait. Tout simplement parce que je suis venu les aider, parce que, encore une fois, leur projet est un beau projet, c'est un projet dans lequel je crois. Il y a tellement des personnes, des belles personnes ici, que ça donne envie de les aider, ça donne envie qu'ils réussissent.
Oui, moi de toute façon, je pense que si on est là aujourd'hui, c'est que la SCOB, on y croit. Sinon, on serait parti il y a pratiquement 5 ans en arrière, on aurait pris le chèque et puis on serait parti comme certains l'ont fait. Puis ça va marcher, c'est obligé. Parce que tous ceux qui sont restés, justement, ils en veulent. Bon, nous, on n'en a pas pour longtemps, hein, puisque nous, on approche de la retraite, mais pour tous ces jeunes-là, il faut que ça marche. Et j'espère, je souhaite qu'ils en sont conscients. Voilà, pour que ça marche et qu'on n'ait pas fait tout ça pour rien, quoi.
Il faut y aller, hein. Si on n'essaye pas, on n'a rien. Hein. Il faut que, là, c'est leur avenir et il faut qu'ils mettent toutes leurs tripes. Hein. Et qui veut, peut.
Voilà. Alors là, on a augmenté le dosage pour voir si à 2 grammes, pour l'instant, sur les 3 produits, pour l'instant, j'en valide aucun. On va regarder à 2,25, je pense que ça devrait passer. Pour 2, au moins, ça devrait passer sur 2. Le Darjeeling, je pense pas. Je pense que va falloir revoir.
On va passer dans une deuxième zone de stockage. Et on trouve notre éléphant qui nous accompagne énormément le long de cette lutte, puisque l'éléphant c'était notre marque et c'était notre symbole. Alors c'est l'éléphant en taille, il s'apparente à un vrai éléphant, hein, puisqu'il doit faire 2 mètres de haut. Il est assez imposant, il a de belles jambes. Il a été fait en une structure métallique et ensuite avec du plâtre. C'est un éléphant d'Inde. Là, il est de couleur blanche. Ça fait qu'on le voit bien dans les manifs. Et on le garde. C'est un souvenir d'où on vient. Souvenir de ce qu'on a fait, il représente. Pour moi, il représente beaucoup de choses, cet éléphant. C'est, voilà, ça représente la solidarité, ça représente aussi la lutte qu'on a menée, parce que il est monté jusqu'à Paris, cet éléphant. Et donc, il a beaucoup voyagé, il a fallu souvent qu'on le retape avec des bandes de plâtre, parce que pendant les voyages, il était fatigué, il a fait des manifs sous la pluie. Et tout le monde nous reconnaissait la lutte des Fralib par cet éléphant. Donc cet éléphant représente tout ça, ces 4 ans de lutte, ces 4 ans de solidarité, c'est 4 ans de voyage. Et c'est, là, on le voit, c'est la force tranquille. Il est imposant. Faut pas nous embêter, faut pas le sous-estimer. C'est ce qu'ils ont fait la multinationale avec nous. Et ben, ils se sont retrouvés face à cet éléphant. On est imposant, on est tranquille, mais faut pas venir nous embêter. Quoi.
J'ai tenu 3 ans parce que j'ai cru à la. Je croyais à ce que, pourquoi je me battais. Parce qu'il faut y croire. Parce que c'est pas facile tous les jours de lutter. Mais quand vous y croyez, ben vous êtes animé par une force qui tous les jours vous fait vous lever pour y aller. Je me suis dit, je vais pas me laisser faire parce que tout le monde dit que c'est un gros groupe et qu'on n'y arrivera pas. Non. Il y avait aussi parce qu'il y avait une force de proposition derrière. C'est qu'on luttait, mais on avait un projet aussi qu'on a construit pendant bien 3 ans. Donc oui, le projet de l'ASCOP, c'était pour nous, c'est inéluctable que l'ASCOP commence et que démarre. Parce que on se voyait pas revivre, je veux dire, moi je me voyais pas revivre la même histoire avec un autre groupe, c'est-à-dire me faire licencier pour aller être embauché par un autre groupe, pour revivre la même histoire 3 ans après. Non, je me voyais pas. Non.
Et l'ASCOP, qu'est-ce qu'elle offrait de différent ?
Émancipation. Une émancipation de la personne, du salarié. Parce que le salarié, en rentrant dans une SCOP, est à premier abord coopérateur. Donc il est quand même le premier à la souche du capital de l'entreprise. C'est lui qui investit. Donc il fait partie de l'entreprise. Il est aussi le dirigeant de cette entreprise. Nous sommes tous les dirigeants de cette entreprise en étant coopérateurs. Nous sommes associés. Donc c'est un lien inéluctable quand vous faites partie d'une SCOP. C'est une chaîne. Les coopérateurs sont une chaîne qui font le même collier. Votre destin, vous le prenez en main, quoi. Vous savez pourquoi vous travaillez. Vous savez où l'argent va aller. C'est pas vertical, c'est horizontal. Donc vous êtes en prise à toutes les réflexions qu'a un dirigeant, mais sans être dans le profit à outrance. Nous, ce qu'on veut dans le futur, c'est dégager des profits, oui, pour justement que les coopérateurs et les salariés aient une condition de vie meilleure et de travail meilleur. Le but du SCOP, c'est ça. De ma SCOP et de notre SCOP, c'est ça. C'est qu'il y ait une évolution dans le bon sens, pas dans le profit à outrance pour justement gaver les actionnaires. Nous, ça ne nous dit plus.
Le gros changement, c'est la pression mise par le groupe Ini Le Vert lorsque les salariés travaillaient. Et donc ça, nous, c'est pas ce qu'on veut.
Olivier Le Berquet, délégué CGT.
Donc ça, on va pouvoir mettre en place ce que nous on proposait, notamment au niveau des conditions de travail, au niveau du fonctionnement des règles qu'on va appliquer dans l'atelier. Par exemple, certaines de nos plus vieilles machines, quand vous avez fait le tour d'atelier avec Gérard, il vous les a montrées. Ce que nous on considère comme un scandale, c'est pas si vieux, hein, c'est pas il y a 2 siècles en arrière, il y a une quarantaine d'années, ces machines-là. Sur l'ensemble de la ligne, il y avait 24 personnes. Aujourd'hui, il y avait une personne pour 4 machines. On avait des cadences, par exemple, sur les machines qui mettent les boîtes par étui de 10, où là, l'opératrice avait 4 machines, ou l'opérateur, il avait à peine rempli le magasin de la quatrième, qu'il allait revenir sur la première. En même temps, il y a les rouleaux de papier fit. Donc c'est impossible. Humainement, c'est impossible. On doit pouvoir venir travailler sereinement, faire notre travail avec le nombre de personnes nécessaires à occuper les postes de travail. Et tout ça se fera dans la bonne humeur.
Vous voir la montagne là-bas ?
Marc Descugy, mécanicien, directeur général de la SCOP.
La Montagna, en fait, on a des machines qui tournent à 450 sachets minute. C'est des sachets double chambre, on appelle les double chambre, c'est des petites sacoches. 450 sachets minute. Et cette Montagna-là, en fait, elle est unique parce qu'on fait des sachets de 2 grammes, de 2 à 4 grammes. D'accord ? Ça, c'est un volume qui est quand même important. Alors que les autres machines identiques, on tourne de 1,6 g à 1,8 g maximum. C'est là, juste derrière.
Il y a du travail. Hein. Quelque part, on nous a un peu poussé à nous... à nous dépasser. C'est un peu ça, quoi. Nous, on était techniciens, alors voilà, on dépannait les machines. Après, je prends exemple pour moi, mais on était sur machine, on dépannait. Maintenant, on arrive à un niveau où, voilà, on doit mettre en place des plans de maintenance totale sur toutes les lignes, sur toutes les technologies. On doit en plus penser à tout ce qui est planification, on doit penser en plus à tout ce qui est packaging, mettre en place les packaging, plus organisation, plus après ce poste-là où au directeur général, où il y a des réunions importantes. Où, voilà, il y a beaucoup de trucs qui se cumulent et c'est vrai que c'est... Mais on doit se dépasser, hein, c'est ça le truc, on doit être polyvalent. C'est ça le but. Le but, c'est ça. De toute façon, on n'est pas beaucoup, on est quoi, 51 hein. Dans une usine comme ça, on est à 12 000 m² quand même de bâtiment. Et voilà, c'est un beau projet, on y croit et on a beaucoup, beaucoup d'espoir là-dessus. De toute façon, on fait tout pour. Hein. On fait tout pour. C'est une sacrée aventure. Hein. Ça, ça s'appelle une C2000. Bon, bien sûr, c'est une C2000 tout automatique, hein, avec deux rouleaux papier filtre, deux rouleaux enveloppe, deux rouleaux étiquette, avec raccord automatique. C'est une machine qui ne s'arrête pas quand elle change de rouleau. Elle ralentit, elle fait le raccord automatique, et après elle repart, elle éjecte les sachets avec le raccord. Donc c'est vraiment une sacrée machine. Hein.
Marseille, à 200 mètres du Vieux-Port, le siège de l'Union régionale des SCOP. C'est ici que les salariés de SCOPTI, membres du conseil d'administration, se forment pour mener à bien leur projet de coopérative. L'Union régionale dispense des formations juridiques, économiques, de gestion, une aide indispensable pour acquérir de nouvelles compétences. Car les anciens de Fralib doivent désormais être polyvalents, comme Rémi Dri, l'ancienne ouvrière, devenue comptable de la SCOP, ou encore Olivier Leberquier et Marc Ducuigi, autrefois chargés de la maintenance des machines, aujourd'hui à la tête de la coopérative.
Bonjour
monsieur. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous venez pour les SCOPTI? D'accord, ok. Alors, ils sont en formation, en fait. Et ici, vous êtes à l'Union Régionale. Il y a nos locaux ici. Vous voulez les voir? C'est notre salle de formation, réunion de travail. On fait les formations ici. Là, il y a des stagiaires qui arrivent. Il y a déjà des gens de SCOPTI, là. Ils sont là. Donc, je finis ma petite cuisine interne et je suis à vous dans un petit quart d'heure. Ça vous va?
Juste pour comprendre, en fait, c'est une formation qui a quel objet aujourd'hui?
C'est une formation qui est destinée à tous les créateurs, cadres, dirigeants de SCOP.
Et aujourd'hui, vous allez aborder quel
thème? C'est le droit coopératif, la participation salariale, responsabilité d'associé, d'administrateur. C'est la grosse journée un peu juridique, un petit peu difficile.
Alors,
ok, ça va.
Merci beaucoup.
Bonjour.
Et là, on sait qu'on a une formation sur 10 jours, je crois.
10 jours d'affilée.
Non.
Non, conseil d'administration, c'est pas trop possible de se libérer 10 jours. C'est pas.
Il est super chargé. Et puis voilà, et puis il y a du boulot aussi à l'usine. Donc il faut jongler avec tout ça, hein, les formations, le travail à l'usine. Et puis, il y a les formations à côté aussi, hein, parce que moi, je pars en formation, je crois, la semaine prochaine à Avignon. Non, le 9. Ah ben oui, c'est la semaine prochaine. Jeudi prochain, sur Avignon, sur Aix, sur... Je fais plus de formation maintenant. Qu'est-ce que j'en ai fait à 20 ans?
Mais elle a 20 ans.
Ah, peut-être il est là, Olivier.
Ben voilà.
On l'a tout fait, hein. Merci, Olivier.
Jamais. Moi j'ai dit, tu as pas attrapé la panique, tu t'es garé où alors?
Je suis dans le métro.
Tu t'es garé où?
À
C'est mon fils, il m'a conduit au métro.
Ah, voilà.
Il m'a déposé. Non, j'étais à l'heure, mais j'ai eu Thomas qui m'a harcelé au téléphone.
Est-ce qu'on vous a distribué à tous sur le statuscope? Vous intervenez tous dans le cadre d'une formation sur les administrateurs, la démarche d'administration. Ça veut dire que vous êtes tous plus ou moins à la tête dans la gouvernance d'une SCOP ou dirigeant de SCOP ou... Il en manque? Non. Concrètement, c'est juridique, ma formation. Là, vous êtes là pour essayer de gérer, d'administrer, de rentrer dans une dynamique qui va interpeller à la fois les associés et les dirigeants, dans lequel vous allez essayer de construire quelque chose qui est dynamique. Donc, la matière, elle est juridique, mais le quotidien, il est fait d'interactions entre des gens qui reprennent une structure et qui cherchent à la développer ensemble. Voilà. Mais on est là pour vous aider, on est là pour réfléchir, on est là pour essayer de construire quelque chose.
Au SCOP, un associé égale une voix.
Cyril Rodriguez, Union Régionale des SCOP.
C'est une démocratie. Accepter la démocratie, c'est le plus difficile, mais c'est le principe de base de la SCOP. Le fil rouge, c'est on est tous ensemble, pourquoi ? Voilà, donc à partir du moment où on est fédéré par un projet, qu'il soit politique, mais avec un grand P, hein, qu'il soit idéologique, qu'il soit économique, on est fédéré par ça. Aujourd'hui, les SCOPTI sont fédérés par on a récupéré notre outil de travail. Demain, ça sera autre chose, mais c'est eux qui le décideront et qui le vivront en fonction du marché, en fonction de l'implication des associés salariés. Donc oui, des dossiers comme SCOPTI, la réalité, c'est que c'est quand même assez exceptionnel, hein, même au niveau national. Et je pense que même dans l'histoire du monde coopératif, ça restera. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais voilà, ça fait partie des combats entre le patronat, entre guillemets, le salariat et le monde coopératif. Donc bien évidemment, c'est intéressant en tant que délégué de le suivre. Moi, j'ai connu les SCOP, pas à l'école. Hein, j'étais commercial, pur et dur. Et notre entreprise, qui était Demeco Toulon, faisait des mécos les ménageurs, on a été en liquidation. Donc si vous voulez, on était dans le même cas que SCOPTI, hein. Sans le combat syndical et la bataille contre Unilever, nous, hein. C'était juste avec un patron classique. Et du jour au lendemain, 50 personnes s'est retrouvé à la rue. Et donc on a lancé une SCOP, ouais, tout à fait, qui existe toujours, hein, sur Toulon, qui aurait dû fermer il y a 10 ans quand même, et qui est toujours là. Après, les routes personnelles font que moi j'ai quitté la coopérative, mais pour me lancer dans ce principe économique que j'ai découvert et que j'ai trouvé, je suis plus objectif, mais que j'ai trouvé très très intéressant pour tout. Au niveau humain, au niveau des territoires, au niveau de la logique économique, la pérennité à terme, je trouve que c'est une arme qui est... Si on maintient le capitalisme, je ne rentre pas dans des débats, mais dans un système capitaliste, je trouve que la SCOP est le compromis le plus idéal pour moi.
Oui, c'est vrai, c'est exaltant, c'est au-delà d'avoir gagné nos emplois. Et il y a cette idée-là de prouver qu'il y a un autre système qui est possible. Et de plus en plus, on entend qu'il y a... Mais c'est vrai que c'est des petites structures, qu'il y a des coopératives qui se créent. Après, on sait qu'on est dans un monde capitaliste. Hein. Je veux dire, ça c'est clair, hein, on le voit tous les jours. Hein. Mais on essaie de... Il y a un collègue, il dit on est une chaloupe dans un océan de capitalistes. Eh bien, on va ramer tant qu'on peut pour trouver une terre, quoi. Et que d'autres chaloupes viennent et qu'on crée quelque chose ensemble.
Bon, comment ça s'appelle? Essaoui.
Présent.
Arto.
Présent.
Baroni.
Présent.
Cariole.
C'est moi.
Là, c'est une assemblée générale de tous les coopérateurs. Et donc on réunit l'ensemble des coopérateurs aujourd'hui là, pour continuer à travailler sur la politique salariale qu'on va mettre en place dans l'entreprise. C'est le cœur du centre décisionnel des choix stratégiques de l'entreprise. Ce qui est souverain, c'est l'Assemblée Générale. Si un jour il y a des décisions qui sont prises qui ne collent pas à la politique générale qu'on a décidée en Assemblée Générale, et ben, le couperet tombera. Systématiquement, tout ce qu'on met en place, c'est l'émanation des coopérateurs et donc des salariés qui vont travailler dans la SCOP.
Donc, on réunisse aussi tout pour ne pas perdre de temps la commission, en ayant l'aval de l'Assemblée, sur quoi on travaille, quel document. Le document, là, qu'est-ce qui manque, comment on l'aménage, pour mettre au vote. Voilà. Et comme ça, on peut le faire tout de suite, là, parce qu'on est là, on se voit, qu'est-ce qu'on propose par rapport au document pour mettre au vote, et quel délai on met pour mettre au vote.
Pendant la lutte, les salariés de Fralib organisaient chaque semaine une assemblée générale pour décider ensemble de la stratégie à suivre. Aujourd'hui, les AG continuent à être le poumon démocratique de la coopérative.
Ça va, ça ou pas ?
Ceux qui font partie de la commission, c'est bon pour qu'on se voie juste après l'AG ?
Allez, on y va. On a une tourneur. Si on est d'accord sur travailler sur le formulaire.
Non,
mais ça,
l'idée, c'est, est-ce qu'on est d'accord sur ça ? Il y a un problème là-dessus. Oui. On doit se voir en commission pour proposer un document.
Oui.
Donc, est-ce qu'on est d'accord en Assemblée Générale de se voir en commission pour proposer un document qui prend en compte ça ? Oui ou non ?
Oui.
Et après, autre chose, qu'est-ce qu'on se donne comme délai ?
Vendredi prochain.
Jusqu'à la prochaine assemblée générale.
Pour que vendredi, tout le monde ait son bulletin. On laisse jusqu'à vendredi prochain pour le vote.
Pour le vote.
D'accord. Ouais. On fera une AG au début de l'autre semaine sur le rendu du vote et la suite sur la commission. D'accord. Sur la politique salariale. Ça convient à tout le monde, ça ?
Ouais.
Ouais. C'est bon ?
N'oubliez pas de vous inscrire pour le bus.
Attends,
ouais, il y a un point aussi là. Attends.
Les formations aussi.
Par rapport à la publicité,
tout le monde a parlé, je suis content. Parce que d'habitude, pas tout le monde parle. C'est ce qu'on cherche. Hein ?
Ah oui, c'est, moi ça m'a étonné parce que franchement, on a réussi. Et je pense qu'on a bien fait de prendre du recul, d'analyser les chiffres, de donner les documents pour que. Rediscuter du même sujet trois jours après, ça a été assimilé et on a pu parler tranquillement, sans énervement, sans quoi que ce soit. Donc là, c'était positif et constructif. Et je pense que le prochain coup, on sera prêt et mûr pour voter sur la politique salariale.
Il fait froid alors.
Ça me fait plaisir.
Comme quoi tout arrive,
hein.
Comme quoi tout arrive.
Pour les anciens de Fralib, la coopérative offre de nouvelles perspectives. Le collectif de travail se substitue désormais à la figure du patron. Tous sont maintenant responsables et partie prenante de la marche de l'entreprise, avec tout ce que cela comporte de difficultés, mais aussi d'émancipation. Une source d'épanouissement amorcée dans la lutte, où création et culture accompagnent aussi les grévistes qui écriront une pièce de théâtre.
Eh bien, bon après-midi à tout le monde et merci d'être aussi nombreux, on s'y attendait pas en fait, même si c'est une grande fête. Je ne peux que vous souhaiter un très bon spectacle.
Le titre de la pièce, c'est 1336 jours de lutte. C'est une pièce qui rassemble plusieurs petites pièces, voilà,
monsieur,
petits actes.
Monsieur Fralib et Monsieur Mandel.
C'est expliquer notre lutte, expliquer ce qu'on a vécu de l'intérieur. Parce que souvent, les gens, lorsqu'ils entendent parler des Fralib, mais ils ne voient pas le plan arrière qu'il y a dans une lutte. C'est-à-dire, vous avez les tribunaux, vous êtes un salarié qui vit avec tous les jours des convocations, vous avez des huissiers qui vous envoient des lettres à la maison, vous avez votre bureau de reclassement qui veut vous reclasser à tout prix, pour que comme ça, vous soyez, ce ne soit plus le problème du Unilever, pour se donner bonne conscience, quoi. Et on avait besoin de parler de ça.
Ça vous fait rire ? Allez-y, amusez-vous, rigolez, sortez votre folklore, sortez vos banderoles, sortez vos drapeaux, vous ne faites qu'accélérer les choses. Monsieur le directeur d'usine !
Licenciement ! Tous au chômage ! Licenciement !
Jamais pour nous.
Ils veulent nous mettre à la rue et nous détruire.
Nous, on veut construire.
la culture, ça éveille. Hein. Quand on y touche du doigt, peut-être qu'on adhère. Moi, j'ai totalement adhéré, donc j'aime ça. Puis, pour continuer à transmettre notre vécu, la culture est un moyen de toucher les esprits. Et chaque métier de culture est riche. C'est pour ça que je le fais.
Oui, c'est vrai que cette histoire de culture, elle est pas forcément naturellement associée à l'ouvrier, au monde du travail.
Henri Solaire, magazine.
Et je trouve que bon, dans notre projet de SCOPE, on avait déjà un petit peu réfléchi à ce qui est quelque chose de différent au niveau de l'accès à la culture. Et donc le fait d'avoir tapé sur le théâtre et puis le fait de faire de la musique. Ben, donc on a une salle de répète, on répète ici la pièce de théâtre, donc on fait vivre cette forme de culture ouvrière populaire, et c'est quelque chose qui nous tenait à cœur, on va dire sous forme de projet, et là on l'a réalisé au final, et c'est pas mal, voilà.
Respect des salariés, des salaires permettant de vivre. Pour cela, il faut protéger notre usine.
N'oublions pas, celui qui lutte reste debout. Reste debout.
Déjà, on sait qui on est, on sait d'où on vient. On sait d'où on vient, on sait de quelle classe on appartient et on sait contre qui on se bat. Et porter la solidarité, puisque par rapport à la pièce de théâtre qu'on a créée, on la joue dans des usines en lutte pour leur permettre justement d'avoir de la solidarité pécuniaire. On ne pouvait pas concevoir de dire on a gagné, on dit la lutte c'est fini, on crée l'entreprise et on devient une entreprise normale. Non, tu ne peux pas le concevoir. On a vécu pendant 4 ans en étant ouvert au monde. Si demain tu te fermes et tu fais l'entreprise Labda, tu n'as rien compris, quoi. Tu n'as rien compris au truc. Allez-y, messieurs les gouvernants, faites allégeance au marché financier. Envoyez-moi dans les dents tous vos plans d'austérité, vos dégradations de mes libertés, vos pactes de compétitivité. Tant qu'il y aura du pain et des jeux, tranquillement je détournerai les yeux.
Le combat des Fralib, la démocratie au cœur de l'entreprise. Avec Yves Baroni, Gérard Cazorla, Marc Décugy, Nadine Fiquet, Amine Guénim, Rémi Dri, Olivier Leberquier, Cyril Rodriguez et Henri Solaire.
Arrête de t'abreuver de ces conneries et regarde ce qui se passe dans la vraie vie. Il faut que tu prennes conscience qu'ici, même en France, trop de gens fouillant les poubelles pour manger, trop de gens étant à la rue en étant salariés. Alors bouge-toi, lève-toi du canapé et viens avec nous.
Attachés d'émission, Alison Sinard et Christine Bernard. Coordination, Irène Omelianenko. Prise de son, Chantal Nouvelot. Mixage, Pierre Mine. Un documentaire de Nicolas Jox et Diffy Mariani pour Sur les Docks.
Allez-y, messieurs les gouvernants, faites allégeance au marché financier. Envoyez-moi dans les dents tous vos plans d'austérité, vos pactes de responsabilité. Moi je m'abreuve de télé-réalité, et comme ils le disent à la télé, tout est en train de s'arranger. Badaboudam, dam, dam, doudoué, badaboudam, dam, dam, doudam. Il y a un monde autour de toi, des assos, des syndicats, des comités qui luttent et qui combattent.
Le combat des Fralib est à télécharger ou réécouter sur le site de l'heure du documentaire, Rendez-vous demain à 17h pour une enquête de Maïlys Bessery sur les expériences de mort imminente.